Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde de première journée des Imaginales 2018. Alors, nous avons autour de la table des auteurs et autrices de qualité, comme toujours sur ce festival. On va commencer par la plus jeune d'entre nous, peut-être, au festival. Estelle, au festival. Estelle Wegner, bienvenue. Vous êtes l'autrice de Kayla Marshall, L'Exil. C'est une trilogie.
Oui.
Et on va apprendre avec vous à découvrir ce que c'est que ce que sont les morphes. C'est bien ça. Sarah Dock, vous êtes l'autrice de Technofairy. Et vous allez pouvoir nous expliquer que sont les fées, quel que soit l'endroit d'où elles viennent.
Oui, et puis dans le petit peuple, il y a toutes sortes de créatures.
Fabien Cerruti, vous êtes l'auteur du Bâtard de Cossigan.
C'est vrai.
Et vous ne touchez pas 20 000 euros. Vous ne... Et le tome 4 est attendu.
Il est même là.
Oui, non, mais est attendu par les lecteurs, c'est ça que
bien
je voulais
sûr.
Dire. Personne ne l'a encore lu à part vos bêta-lecteurs et votre éditeur.
Et ceux qui l'ont acheté ce matin.
D'accord, ok. Et qui l'auraient déjà fini depuis ce matin.
Et ceux qui vont l'acheter.
Mais tome 4, très très attendu parce que le cliffhanger du tome 3 était un peu insupportable.
Ouais, je suis méchant.
Vous êtes méchant. On sait déjà dans quelle catégorie entre violent et séduisant vous allez
pas
vous
du
placer.
Tout, pas du tout.
Et enfin, Patrick Maxper, qui va nous parler de ce qui se passe pour son héros Ael, qui devient Aelfic.
C'est ça.
Voilà. Le titre de la conférence, c'est « Féature et autres créatures ».« Fées et autres créatures ». Féature. Eh bien, voilà, j'ai inventé un mot. « Fées et autres créatures ». Merci. Fées et autres créatures violentes ou séduisantes. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et que vous nous disiez chacun et chacune qui sont les créatures de vos univers, s'il y en a, évidemment. Qui a envie de commencer? Oui, Fabien.
Alors moi, il y en a surtout dans les nouvelles qui vont en parallèle des aventures principales du chevalier bâtard de Cossigan. Et notamment, il y a une fée bourguignonne, guerrière, combattante, qui est la dernière de sa race dans l'anthologie des Imaginales 2015 et qui cherche à faire perdurer les elfes qui sont en train de disparaître et qui sont pourchassés dans tout l'Occident. Et donc c'est son combat qui est décrit là. Sinon, dans l'anthologie des Imaginales de l'année dernière, on découvre toutes sortes de créatures féeriques dans le voyage de Jean de Mandeville qui part d'Europe pour gagner la Chine et essayer de découvrir un grand nombre de secrets sur les créatures anciennes dans son périple. Et puis cette année, on apprend le secret de l'origine, toujours dans l'anthologie des Imaginales, on apprend le secret véritable de l'origine des elfes. Et voilà. Donc c'est surtout dans les nouvelles qu'on va trouver des créatures qui vont être mises en valeur ou mises en avant. Et dans les romans principaux, la grande question qui se pose, puisque l'idée c'est que ce que je décris du XIVe siècle est censé être notre véritable XIVe siècle, la question qui se pose c'est justement pourquoi et quand et comment ces créatures ont disparu de l'histoire de notre monde. Et là, ben, je peux rien vous dire.
Estelle, alors votre héroïne est une créature.
Voilà, Vosgienne en plus, je le dis. C'est important.
J'imagine.
Donc, dans ma trilogie, on parle de morphes et de polymorphes. Donc, la base, en fait, ce sont les loups-garous, mais avec toutes sortes d'animaux. Il n'y a pas que des loups, on va trouver aussi des renards, des panthères, des ours, un peu de tout, mais avec une mythologie qui leur est vraiment propre. Et donc on va découvrir vraiment au fur et à mesure de la trilogie. Au début, on découvre les morphes. On apprend qu'il existe des polymorphes, mais c'est presque un mythe encore à ce niveau-là. Et on va vraiment le développer par la suite. Après, je ne peux pas trop révéler les origines. Parce
pervers,
que...
les polymorphes?
Non. J'écris du young adulte, donc...
donc pas de perversion.
Non.
Okay.
Pas trop.
Sarah, vous êtes sont nombreuses, vos créatures.
Dans Technoferie, il n'y a quasiment que ça. Des humains, il n'y en a pas beaucoup. Il y a énormément de créatures du petit peuple qui vont du lutin aux belles dames et aux beaux messieurs, qui vont du kobold à la tomiel. C'est vraiment, ce sont des fées, ce sont des membres du petit peuple qui ont évolué avec le temps et la technologie pour s'adapter à notre société, à notre terre, et essayer de la réparer un petit peu, parce que les hommes ont un petit peu foutu le bordel.
C'est un peu pour ça que c'est techno-faerie et pas juste.
Voilà, ce sont des fées technologiques. Ce sont, par exemple, l'anatomiel est une fée qui se nourrit de déchets radioactifs.
Il en faudrait plus, peut-être.
Il en faudrait beaucoup.
Patrick, qui est Aël ? Est-ce qu'il est une créature ?
Alors, au départ, non. Aël est un jeune.
Oui.
Oui, je la travaille en plus. Attention à vous. Au départ, Aël est. C'est pas une créature, non. C'est un jeune humain qui se retrouve transporté. Sans savoir absolument comment, dans un univers extradimensionnel, un univers elfique qui s'apparente chez moi à plutôt au petit peuple justement dont on parlait il y a quelques instants, des elfes qui n'ont rien à voir avec la vision Tolkien, pas des elfes grands, blonds, qui sont plutôt rabougris, petits, tout ça. Et j'explique d'ailleurs à la fin du roman pourquoi Tolkien voyait les elfes comme ça. Il m'en voudra pas, je gage que je peux me le permettre. Et donc Aël.
C'est facile de s'en prendre au mort.
C'est beaucoup plus confortable, je le confirme. Et Aël donc va devenir lui-même un elfe et devoir sauver non seulement ses parents, mais se sauver lui-même et en plus essayer de débrouiller tout un tas de mystères. Mais les elfes que je présente dans Elfique sont pas originaires de notre monde. Hein. Ils sont vraiment extradimensionnels, mais on s'aperçoit au fil du récit qu'ils ont longuement fréquenté les humains et qu'ils en ont adopté certains des pires travers. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que ces créatures sont pour vous une façon de parler de nous ? À quoi servent les créatures dans vos romans ? Est-ce qu'elles sont des parts de nous, un reflet dans le miroir, un reflet de nos peurs, de nos vices ? Est-ce que vous servez des créatures pour parler des humains ?
Évidemment, mais bon, je crois que c'est le propre de toute la littérature de l'imaginaire. Ce sont des lettres persanes. C'est un détour pour parler de l'humain, pour parler de la société, pour parler de l'évolution vers laquelle on aimerait ou pas aller.
C'est aussi montrer que les humains sont eux-mêmes des créatures et les placer aussi un rang, une place qui est la leur au milieu des autres et réfléchir sur aussi ce qui peut être des facteurs de différenciation ou non et les problèmes que ça pose derrière, les difficultés à se comprendre sans que personne n'ait vraiment raison ou tort, mais chacun pensant avoir la véritable façon d'envisager la vie, l'univers ou l'ensemble des origines. Donc c'est des choses, je crois, récurrentes par rapport aux êtres vivants, quels qu'ils soient. Il y a cette question de la cohabitation et de la confrontation en même temps qui apparaît.
Estelle ?
Pour ma part, avec donc les morphes et les polymorphes, ça permet aussi de donner beaucoup plus de relief aux vies des personnages. C'est-à-dire que nous, notre quotidien, pour la plupart des gens du moins, c'est métro, boulot, dodo, comme on dit, hein, c'est quand même assez...
Non, il y a des gens qui se droguent aussi, qui prennent du plaisir, moi par exemple.
Mais voilà, enfin, moi je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, je suis mariée, jusqu'à il n'y a pas longtemps j'avais un travail classique. C'est vraiment la vie basique, entre guillemets, qui est valable pour la plupart des
gens. Une certaine forme de normalité.
Voilà, une certaine forme de normalité. Et les morphes, comme les loups-garous et beaucoup de créatures, vivent les choses plus intensément. Et le fait aussi que la magie fasse partie de leur vie amène des problèmes dont on n'oserait pas rêver. Des fois, vaudrait mieux pas, d'ailleurs. Et ça rend tout plus intéressant. En fait, ça permet de vivre des choses qu'on vivra jamais dans notre vie.
Mais est-ce que vous leur donnez des aspects, des caractéristiques que vous n'aimeriez pas voir chez les humains ou que vous préféreriez voir chez les humains ? Je sais pas, plus de bonté, plus de tolérance, oui, ou moins d'ailleurs ?
Plus de respect pour la nature. Le fait que ce soit des animaux, ça permet d'amener assez facilement ça, puisque voilà, eux ne sont pas en train de détruire la planète, contrairement à nous. Et oui, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire passer. Je ne me suis pas énormément penchée sur la question dans le livre, ça peut se ressentir ou pas, mais moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Je suis encore choquée de voir, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, vous passez près d'un McDo, vous regardez autour, on se dit, mais les gens sont des porcs, quoi, c'est incroyable. La première chose que j'ai apprise à mon fils en voiture, c'est de rien jeter par la fenêtre, ça me paraît logique, et je lui dis, la nature, ce n'est pas une poubelle. Tu peux le mettre par terre dans la voiture, voilà. C'est quelque chose qui me paraît normal, mais apparemment pas à tout le monde. Et de parler de créatures, voilà, pour moi, ce sont des animaux, enfin, moitié animaux, moitié hommes. Eux, ça ne leur traverserait pas l'esprit de détruire leur environnement comme ça. Et j'espère que ça peut toucher certaines personnes et les faire réfléchir aussi à leurs gestes quotidiens.
Patrick, est-ce qu'il y a des reflets sombres dans les créatures de vos livres ?
Oui, beaucoup pour le... Oui.
Peut-être pas dans Elphick.
Si, tout de même. Dans Elphick, je présente... Alors l'effet en elle-même, j'en parle assez peu dans mon univers, puisque toutes mes productions évoluent dans le même univers, c'est un univers partagé. Mes créatures de prédilection restant jusqu'à ce jour ce qu'on appelle les Fomorés, donc les forces du mal de la mythologie celtique irlandaise, qu'on retrouve en filigrane dans quasiment tous mes romans. Mais dans Elphick, la seule fée dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est la plus connue de toutes, la fée Morgane. Mais sans qu'on la voit jamais.
Qui compète avec Mélusine quand même.
Ouais, je pense que Morgane a tout de même un peu plus de notoriété, hein, je crois.
Tu penses que si elles font un bras de fer.
Ouais, Morgane la pète grave, quoi. Ah oui, je pense. Enfin, je sais pas, le débat est ouvert, mais je pense que Morgane est quand même reste plus connu que Mélusine.
Team Morgane de ce côté-ci.
J'ai utilisé Mélusine tout de même. Mais me coupe pas comme ça, s'il te plaît. Je suis en plein développement, t'es sympa, mais. Faut que j'essaie de vendre, merde. Mais j'ai perdu le fil, c'est facile en même temps de me le faire perdre.
Dans votre univers, ah,
oui.
Les fées sont
pas. Oui, oui, oui. Donc, la fée Morgane, j'en parle assez souvent, on la voit jamais. Mais dans Elphick, en revanche, je présente le personnage de Croak, qui est un corbeau, et qui symbolise la part sombre de l'âme de la fée Morgane. Qui a été un temps pas très sympa, qui a été carrément méchante, qui s'est rangée dans mon univers, encore une fois, du côté des Fomorés, avant de partir en retraite. Et c'est Croak qui prend le relais. Croak, il est très très mauvais, quoi. Puis il assume, hein. Il est mauvais, puis il aime ça.
Ok, on apprend avec Patrick Maxper que les fées partent en retraite. Tu t'expliqueras avec la sécu.
Il faut se méfier des corbeaux, méfiez-vous des corbeaux, c'est peut-être Croak, le prochain que vous croiserez.
Alors... Pour aborder la deuxième partie du titre de cette table ronde, on a vu qui vous choisissez de représenter et qui sont les créatures que vous mettez en avant. Maintenant, est-ce que vous avez choisi... Patrick vient de nous dire que certaines créatures assumaient parfaitement le fait d'être méchantes. Est-ce que vous avez choisi de les rendre violentes ? Est-ce qu'une créature peut être autre chose que violente ? Et justement, le deuxième pendant de ce titre, c'est si elle n'est pas violente, est-ce qu'elle peut être séduisante ? Et enfin, on arrive pour boucler, on dira est-ce que si elle peut être séduisante en étant violente ? Est-ce que la violence, c'est séduisant ? Fabien, wow. Oui, merci.
Wow. je tiens.
la violence.
D'abord la violence. Voilà, commençons par la base. Dans mes romans, les créatures peuvent être violentes, mais elles ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que dans mes romans, on a toujours la confrontation de visions qui sont différentes, de mondes qui ne se comprennent pas et qui, par conséquent, deviennent ennemis. Mais à chaque fois, le méchant, c'est l'autre camp. Et on le voit bien des deux côtés, en fait.
Il n'y a pas d'aspect moral à la
voilà,
violence.
Tout à fait. Une créature peut être mauvaise, mais comme n'importe quel être vivant peut avoir tel ou tel trait de caractère. Il n'y a pas d'éléments liés, constitutifs de leur nature, liés au mal. En fait, la différence entre les êtres humains et les créatures dans mes livres, c'est que les créatures n'ont pas le même principe initial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nées de la même façon. Elles sont liées à une sorte de force qui nous entoure, qu'on appelle la source et qui est à l'origine de l'efficacité de la magie, qui passe aussi par des automutilations, des choses comme ça. Et c'est ce que les humains n'aiment pas, parce qu'eux n'ont pas accès, ou en tout cas pas facilement, à ce domaine-là. Et ils ne comprennent pas que chez une grande partie de ces créatures, il faille passer par des sacrifices ou des auto-flagellations, mutilations pour accéder à ce monde. Ça leur paraît affreux, horrible. Alors que pour les créatures, elles, c'est tout à fait naturel et normal. Et elles ne comprennent pas pourquoi un dieu moralisateur chrétien est censé régenter tout et finalement essayer de brider tout ce qui est naturel autour de l'humanité. Et elles sont complètement hostiles à ça. Mais certaines le comprennent, certaines sont fascinées par cette urbanisation ou autre. À l'inverse, certains êtres humains sont attirés par les pouvoirs magiques et cherchent à les comprendre et à les utiliser. Voilà, c'est donc on n'a pas vraiment de dichotomie, si ce n'est dans la nature profonde, dans l'origine finalement de ces êtres. Alors évidemment, du coup, ces créatures peuvent être extrêmement séduisante, quelle qu'elle soit. Gunther von Weishaupt, qui est un chevalier humal, c'est-à-dire mi-humain, mi-léonin, en fait, mi-animal, est a une gouaille énorme, aime se mettre en valeur, et en même temps a fait allégeance à l'Église et a un sens de l'honneur extrêmement poussé. Voilà, donc on a un peu de tout. Dans cet univers.
Quand on connaît un petit peu qui est votre bâtard, on peut se dire que sa mère est une créature séduisante.
Très, très probablement, oui, voilà.
Estelle. Ah oui, alors chez vous, les séduisants, il y en a un paquet quand même. Certains pourraient même trouver qu'il y en a trop pour une seule femme.
Oui. Après, on comprend quand même assez vite que... En fait,
Sarah, il n'y en a jamais trop pour une seule femme. Parfait, merci Sarah.
C'est pas parce qu'il y en a des séduisants qui plaisent forcément. Voilà. Je veux dire, c'est pas écrit sur le visage des gens, hein, s'ils sont bons ou méchants. En fait, mon héroïne, elle est loin d'être violente à la base. Elle n'a pas le choix. Elle est différente des siens et elle est différente des autres. C'est un peu comme rentrer au collège aujourd'hui en étant obèse, quoi. Elle en prend plein la tronche, hein, faut dire ce qui est. Elle n'a pas le choix de se défendre, c'est ça ou ce sera pire pour elle. Mais elle reste quand même très naïve. Elle garde un peu cet espoir fou, j'ai envie de dire, que tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Ça, c'est un peu un reflet de moi. Genre.
Vous venez donc du pays des bisounours.
Voilà. Non, la Moselle. Il parle bizarrement là-bas, mais... Non, c'est... Après, c'est vraiment... C'est comme dans la vie, les gens cherchent le pouvoir. Beaucoup de gens cherchent le pouvoir. Et là, c'est beaucoup une histoire de pouvoir dans cette trilogie.
Et ils ne s'acquièrent que par la violence ?
Non, c'est des manigances, mais au bout d'un moment, ben, faut y arriver à la violence. Et voilà, elle cherche pas la violence, mais en fait, elle a pas le choix, elle y est confrontée.
D'accord.
C'est pour pouvoir défendre certaines valeurs à un moment. Je dis pas que ça justifie toujours, là j'ai l'analogie des guerres. Ouais. Pas forcément une bonne idée, mais
je vais pas vous lancer sur la violence légitime, mais
voilà.
Sarah,
moi je me suis vraiment essentiellement basée sur les traditions féeriques, beaucoup de traditions féeriques des îles britanniques, mais aussi des traditions qui viennent d'un peu partout dans le monde, puisque j'ai des fées africaines, j'ai des fées indiennes, j'ai des fées albanaises, j'ai un petit peu brassé tout ça. Et donc, ce n'est pas de la violence, c'est de la cruauté. C'est la cruauté de la séduction. Et c'est la guerre, ça a été pendant très très longtemps une guerre perpétuelle entre la colline, donc la féerie, et l'humanité. La féerie a été exilée sous la colline par l'arrivée des hommes qui utilisaient le fer, par l'âge du fer auquel elles étaient allergiques. Et donc, pendant des siècles et des siècles, elles se sont en quelque sorte vengées. Elles ont enlevé des enfants, elles ont torturé des musiciens, elles ont enlevé des hommes et des femmes pour en faire des esclaves et des choses comme ça. Mais c'est pas forcément violent. Ça passe beaucoup plus par la séduction, ça passe beaucoup plus par une cruauté exquise.
Oui, c'est ce qui est intéressant dans vos créatures, c'est qu'elles sont séduisantes et cruelles, parfois sans violence.
Tout à fait, tout à fait. Mais parfois, mais en même temps, elles peuvent aussi, dans Technoferie, enlever des magnats de l'agroalimentaire ou ce genre de personnages malfaisants et pour un petit peu faire chanter les humains pour essayer de les faire changer, pour essayer de...
C'est donc la technique que nous allons employer dorénavant pour que le monde aille mieux. Enlevons des magnats.
Oui, mais bon, il faut
trouvons des fées. Enfin, trouvons des fées.
Trouvons des fées pour aller... Attends, elles font quand même pousser des arbres dans le désert avec des techniques qui existent. Parce que toutes les techniques dont j'ai parlé dans Technoferie pour tout ce qui concerne la botanique sont des techniques qui sont déjà employées aujourd'hui. Bon, je pousse un petit peu plus loin avec la technomagie, mais sinon c'est vraiment il y a un côté tout à fait scientifique
et faisable
donc. Et faisable dans leur technologie.
Patrick, séduction, violence.
Oui, alors, oui, sans aucun doute, parce que les créatures violentes, oui, bien sûr, elles sont séduisantes, ne serait-ce que parce qu'elles sont sauvages et libres, quoi. Quelque part, on a tous envie de l'être, alors c'est pas pour ça hein, qu'il faut aller fracasser la tête du voisin avec un parpaing, hein. Nous sommes bien d'accord. C'est parce que ça dépend, oui, ça n'a pas tort, ça, c'est vrai, ça peut dépendre du voisin. Mais oui, elles sont sauvages et libres. Et d'autre part, je voulais aussi... apporter une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand nous évoquions Don Croix qui assume sa méchanceté. Il est méchant selon nos critères à nous, quoi. Voilà, c'est pas selon les siens. Lui, il pense être légitime dans son action. Il a un projet de fer et de feu, mais il pense que c'est celui qu'il faut pour la planète Terre, tout comme les faux morés dans mon univers s'estiment légitimes dans leur volonté d'éradiquer l'espèce humaine pour jouir pleinement de cette planète sur laquelle ils ont régné il y a quelques millénaires, très brièvement. Mais pour eux, nous représentons une espèce de parasite, quoi. Et d'ailleurs, hein, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, quand on voit de quelle manière nous détruisons la planète, on peut se demander s'ils n'ont pas raison, nos amis les faux morés, quelque part.
Et comment est-ce que vous pourriez inventer ou écrire des créatures moins violentes? Est-ce qu'on peut être autre chose que violent quand on est une créature, justement? Est-ce que ce mot en lui-même n'est pas quelque chose qui enlève un certain ordre moral, une certaine bonté, une certaine humanité qui nous semble supérieure?
J'ai oublié son nom, faudrait que ça me revienne, mais il y a quelqu'un qui, sur Twitter et sur Facebook, raconte des histoires de dragons, d'un dragon et de son humain. Et en fait, si on le prend bien, si on lui raconte des histoires où les dragons survivent et où les chevaliers ne les tuent pas, ce dragon est très 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 gentil, et tendre, et chaleureux, et tout et tout. Ça dépend de la manière dont on les traite. Je crois que beaucoup de créatures pourraient être d'une douceur et d'une générosité énorme si on les traitait correctement. Mais vu comment l'humain, et traite la planète, et traite les animaux, pourquoi les créatures voudraient être autre chose que violentes et cruelles?
La violence est donc une réaction ou un moyen de défense?
La plupart du temps, oui, je crois.
Chez vous aussi, Estelle? Oui, c'est oui. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Fabien, vos sorcières, elles sont violentes par défense, presque.
Oui, tout à fait. Oui, quand même, si, au fond, quand on regarde l'ensemble, oui.
Oui, avec le recul, pas forcément quand on commence à lire, mais voilà, avec le recul.
Tout à fait. Elles sont mises sous pression. On essaye de les combattre. L'Église, l'Inquisition, donc cherche. Ça se passe à Cologne, ce tome 3, dans le Saint-Empire romain germanique. L'Inquisition cherche à éradiquer ces sorcières qui ont pourtant autrefois été alliées avec les empereurs germaniques. Donc on cherche maintenant à les faire disparaître. Et elles ont trouvé un moyen pour essayer de renverser complètement la tendance. Elles ont peut-être même trouver un moyen de détruire l'Église tout entière, mais malheureusement, il faut qu'elles restent à Cologne pour ça. Et comme elles sont obligées de rester à Cologne, elles se trouvent pourchassées, traquées impitoyablement par l'Inquisition. Et là, du coup, évidemment, elles deviennent violentes pour se cacher et pour se défendre. Et leur violence peut parfois, effectivement, aller assez loin. Mmh. Ouais. Et effectivement, on a... on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les relations entre des êtres vivants qui voient les choses de manière complètement différente et qui, forcément, à un moment ou l'autre, se heurtent et ne se comprennent pas et deviennent ennemis l'un de l'autre, sans parler de méchanceté ou autre, mais par contre de violence, ça, on y glisse assez souvent. Oui. Elles peuvent utiliser la séduction aussi.
J'allais vous demander si entre torture et amour courtois, vers quoi allaient vos préférences.
Trop de choses, mais il y en a une qui sait habilement faire en sorte que on ne la trouve pas, on va dire. Voilà, dans toute cette histoire.
Je réitère, entre torture et amour courtois, quelles sont vos préférences? Parce que torture
courtoise. Ah, le voleur.
Bon, et on se retrouve presque dans Cuchiel là. Hein.
Est-ce que Estelle, vous qui venez d'un autre univers, est-ce que la chimie c'est violent et séduisant? Ça m'intéresse de savoir que vous avez travaillé dans ce domaine-là, parce que je me dis ça, voilà quelque chose qu'on comprend de façon scientifique et qui en même temps peut être complètement mystérieux et du domaine des créatures. Enfin, la chimie pour les littéraires comme moi, c'est du domaine de la magie presque, de l'alchimie. Donc, est-ce que vous y aviez pensé ou est-ce que la chimie, c'est aussi ce qui permet d'exploser. Enfin, ça a quelque chose de fascinant et de violent.
C'est ce qui me plaisait dans mon métier. Je pilotais en fait des installations pétrochimiques. J'aimais ce caractère dangereux. Mon poste faisait que s'il y avait un gros problème, je faisais partie des dernières à partir. Et c'est peut-être quelque chose qui me rendait fière, en fait. J'avais l'impression de faire quelque chose de... pas d'important, mais oui, voilà, d'intense. Je pense que c'est le bon mot. Surtout pour une femme, je faisais partie des premières femmes à rentrer en poste ce métier-là. Ça peut être l'aspect séduisant, le salaire aussi, il faut dire ce qui est. Je travaillais pas dans une petite entreprise, donc je l'ai quitté à regret.
Non, mais auteur, ça paye super bien, vous allez voir.
C'est un choix tout à fait raisonnable que j'ai fait, je n'en doute même pas.
C'est sur la surface.
Après, l'aspect violent, je l'ai connu aussi, puisque j'ai des collègues qui sont décédés suite à un grave accident sur la plateforme. Donc j'ai vraiment eu... Après, j'en avais conscience, hein, j'étais séduite quand même par le métier tout en connaissant les risques. Après, des fois, on dit oui, on sait, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, ok, il y a un peu de vrai, mais j'avais vraiment cette conscience. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ça fait toujours drôle quand même de savoir...
qu'on n'est pas passé loin, peut-être
Oui.
Ça aurait pu vous arriver
Non, parce que j'étais pas sur le terrain, moi j'étais en salle de contrôle, c'est des opérateurs qui étaient sur le terrain et qui s'est arrivé. Mais on se rend compte qu'en fait, je suis allée voir sur le terrain ce qui est la déflagration, les dégâts et tout ça. Tout le monde m'a dit tu vas voir, c'est énorme et tout. Je suis arrivée sur place, je trouvais que c'était rien en fait. Mais ça a été suffisamment intense pour tuer deux personnes et en blesser plusieurs.
Donc la chimie c'est dangereux, ne faites pas ça chez vous.
Voilà, mais ça, c'est vrai que c'est un aspect séduisant parce qu'on part de rien et on arrive à créer des choses hallucinantes. Alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui sont qui serait outré de savoir ce que j'ai fait comme métier.
Pas tant que ça.
Non,
merci.
Il y a une certaine tolérance.
Mais je tiens à rappeler que si aujourd'hui on produit du plastique, c'est parce qu'on nous en demande.
D'accord. C'est assez violent aussi, le plastique, mais ça peut être fantastique.
Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que dans ces créatures, dans ces, que ce soit des fées ou autres, je crois que cette dimension de tu parlais de torture ou de séduction ou d'amour courtois, je crois que c'est aussi une grosse dimension de jeu. De jouer avec le danger, de jouer avec l'humain, de jouer avec la réalité. Et que il y a beaucoup de ça dans toutes ces créatures.
Oui, mais autant je comprends le jeu sur la séduction, autant j'ai un petit peu plus de mal sur la violence, mais je vous laisse m'expliquer.
Ça dépend des créatures. Ça dépend des créatures.
Ok. Est-ce que alors moi je suis pas très j'ai pas fait latin ni j'ai fait grec mais bon c'est pas grave. Est-ce que créature cruauté quelqu'un sait s'il y a une racine qui se ressemble? Non? Non? Bon voilà, c'était une idée comme ça en passant. Alors du coup moi je me demande si vous deviez faire un choix. J'avais rédigé ma question de façon un peu rigolote, mais on sait que mon humour ne marche pas toujours. Est-ce que Eros et Pathos sont dans un bateau chez vous? Qui tombe à l'eau? la séduction et la violence sont à choisir. Qu'est-ce qu'elle choix vous faites si vous devez enlever à vos créatures une forme de pouvoir ou un trait de caractère? Qu'est-ce que vous leur enlevez? Plutôt la violence ou plutôt la séduction?
Ah, oui, c'est fou.
Moi, j'allais répondre à la première question. C'est Héros qui tombe à l'eau parce qu'il gonfle tout le monde, quoi. Il a que des qualités, il est parfait, il nous ennuie dans le noir. On n'en parle plus.
Personnellement, j'enlèverais la séduction.
Ah.
C'est un peu comme travailler avec des hommes ou travailler avec des femmes. La séduction, c'est plus fourbe, plus malicieux, ça cache des choses. Travailler avec un homme, il dit ce qu'il a à dire et après, il passe à autre chose.
Oula.
Car il a quelque chose à dire, hein. Ouais. C'est pas toujours
le cas. On n'est pas d'accord. Mais...
je trouve que la violence, c'est pareil. Je veux dire, la violence, elle arrive, on la voit venir. Ok, alors je parle de violence, pas de cruauté, hein, parce que la cruauté, effectivement, dans la séduction, je pense que voilà. Mais je préférerais avoir affaire à la violence qu'à la séduction. La séduction mal placée, bien sûr.
Bah, moi, quand j'entends pathos, j'entends pathétique, donc je garde la séduction.
Moi aussi, je garde la séduction. Je trouve, mais pour les mêmes raisons que tu la rejettes.
aussi, tout à fait les mêmes. Je la trouve beaucoup plus
exactement,
intéressante et beaucoup plus subtile.
Alors beaucoup plus, pas forcément, mais en tout cas suffisamment intéressante pour plaire à l'esprit humain qui souvent aime bien trouver des moyens détournés pour arriver à ses fins ou à ses buts.
Donc ça voudrait dire que si on garde la séduction, on peut y réintroduire de la violence,
voilà,
alors que le contraire, pas
le
tout
contraire
à fait.
Est plus difficile.
C'est toute la subtilité.
Je traduis parce qu'il essaye de pas le dire, mais
oui.
Oui, Estelle.
Alors, c'est sûr que pour écrire et raconter des histoires, la séduction est plus intéressante. Je pensais plutôt dans le sens le vivre.
Ah, oui. Ah non, mais moi, ne parlons pas de la vraie vie.
Moi aussi, je préfère la séduction. Tu veux dire...
Est-ce que la question de la nature des créatures, cette question qu'on se pose là aujourd'hui et que vous abordez dans vos romans, est-ce que cette question, elle se pose pas, comme le disait Sarah tout à l'heure, un peu depuis la nuit des temps, dès qu'il est question de mythologie et dès qu'il est question d'être non humain? C'est-à-dire est-ce que c'est pas pour questionner notre propre humanité qu'on s'interroge sur eux?
C'est la source de toutes les légendes.
Okay.
De Gilgamesh, quand on parle de Gilgamesh, de l'Iliade, de l'Odyssée, même de la Bible, la créature, l'autre, la créature, c'est l'altérité. C'est un autre mot pour l'altérité. Mm-hmm. Donc c'est le miroir. Et c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain existe, je crois, qu'il se raconte des histoires et qu'il a peur des créatures qui se cachent dans la nuit. et qui donc va se raconter des histoires sur les créatures qui se cachent dans la nuit ou dans les cavernes ou sous le soleil ou dans le soleil.
Je suis d'accord avec Sarah.
Patrick, une autre vision ou la même? Non, me faites pas le coup de je suis d'accord avec Sarah.
Je suis également d'accord avec ça.
Vous auriez pu être d'accord avec Fabien.
Qui est d'accord avec Sarah.
Okay. Bon, alors quelles sont, justement, puisqu'on parle de mythologie et de créatures depuis la nuit des temps, quelles sont celles, en dehors de celles que vous avez écrites, quelles sont celles qui vous inspirent le plus de séduction? Quelles sont celles qui vous inspirent le plus de frayeur par rapport à leur violence? Quelles sont les créatures de vos cauchemars ou de vos rêves?
Alors moi, ma créature rêvée, ça reste le vampire, mais le vampire classique. Pas le vampire façon Twilight, romantique, machin, tout
pas
ça.
Pas celui qui scintille.
Ah non, j'aime pas les vampires scintillants du tout. Je comprends très bien qu'on puisse les aimer, parce qu'il se peut qu'il y en ait qui apprécient dans la salle. Je comprends très bien, moi c'est pas mon trip. Je préfère les vampires à l'ancienne.
Façon comtesse.
Complètement, parce que je trouve qu'il y a une folle élégance dans le vampirisme. Et pour y opposer donc un autre classique du fantastique, je m'effraierais beaucoup plus facilement d'un loup-garou, par exemple, parce que on est dans une espèce de pour le coup de violence, d'animalité déchaînée, incontrôlable, alors que dans un vampire tout est contrôlé.
Classe jusqu'au bout.
Ah ben c'est classe jusqu'au bout. Hein. La petite jugulaire là, toc toc, gentiment. On voit rien le lendemain matin. Voilà, c'est très élégant.
Okay. Ça finit mal, mais c'est élégant.
C'est très amusant parce que le vampire ne me dit rien. Le garou, par contre, il y a une certaine séduction animale, il y a une certaine liberté, justement, libre et sauvage, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a dans le garou, qui fait que...
Oui, mais il sent fort, le garou, aussi. C'est pas pareil.
Estelle, est-ce que vos loups-garous sentent fort?
Non.
Non,
ils sont... Non, ils seraient à mon goût, aussi.
Et la créature qui vous fait peur, alors, Sarah?
Il n'y en a pas.
Rentrez chez vous, les créatures, Sarah n'a peur de rien.
Non, les créatures ne me font pas peur.
Alors, lui, c'est des humains qui vous font peur?
Beaucoup plus. D'accord. Là, oui, si, il y a une créature qui me fait peur, le pervers narcissique manipulateur.
Je me plaçais dans le cas de figure où on serait réellement confronté. Hein. Dans la réalité, c'est-à-dire tu rentres le soir de boîte et tu tombes sur un loup-garou, un vampire, tout ça.
C'est même en boîte parfois qu'on peut rencontrer des créatures.
Patrick Masper rencontre des vampires en boîte.
Alors moi, Fabien, oui.
On reviendra à Estelle parce qu'elle nous a dit ce qu'elle aimait, mais parce qu'il lui faisait peur.
Ah oui, d'accord, oui. Donc les vampires, moi, ce serait plutôt ceux d'Anne Rice que j'aime beaucoup, qui sont pas brillants, qui ne brillent pas la nuit, et le jour, etc. Mais qui sont en même temps humains et qui ont en même temps une vraie classe et quelque chose derrière.
Mais tellement de souffrance
voilà,
chez les vampires.
Voilà, beaucoup de souffrance et finalement une humanité exacerbée. Quelque part, qui est hyper intéressante, je trouve. Et la créature qui me fait peur, c'est celle qui était sous mon lit quand j'avais 5-6 ans. Je ne l'ai jamais vue, mais je suis sûr qu'elle était là. Elle y est peut-être encore, il faudrait que je retrouve mon lit. Je ne sais pas où mes parents l'ont mis, mais je préfère ne pas le savoir. Parce qu'elle était vraiment, mais celle-là, elle était hyper dangereuse, je m'en souviens très bien. Donc oui.
Alors, on parlait des loups-garous, mais... En vrai, ce qui me séduirait le plus comme créature, c'est plutôt les sorcières. Je trouve qu'il y a beaucoup à en dire, il y a beaucoup à voir sur le sujet. Je trouve ça très intéressant, on peut en faire beaucoup de choses. Et par contre, ce qui me ferait peur, alors c'est pas vraiment une créature, hein, c'est un peu pareil, c'est tous les gens haineux. Ça me fait très peur. Sur tous les sujets, hein, je parle, hein, c'est pas pour revenir sur l'actualité ou quoi. Quand j'étais gamine, je crois que j'avais 15 ans, j'ai eu affaire à un monsieur qui devait avoir 70 ans, mais qui était sexiste. J'en ai pris mais plein la tête, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Quoi. On m'a élevée, tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, hein, je reviens à ça. ça m'a fait drôle. Et c'est plus ça qui me fait peur, en fait. C'est des gens qui seraient prêts à tout pour rien, au final. Et c'est ça. Après, peu importe la créature, j'ai envie de dire.
On se rejoint un petit peu, parce que quand je dis pervers narcissique manipulateur, c'est la manipulation, et ça passe aussi par la haine de l'autre, oui, et par la négation de l'autre.
Bien. Est-ce que vous auriez d'autres... parce qu'on est resté sur des choses très proches de vos univers. Quand je vous posais la question sur qu'est-ce qui vous inspire, je pensais à des choses mythologiques, je pensais à des sirènes, je pensais à des minotaures, je pensais... Il y en a chez certains d'entre vous, mais est-ce que dans des mythologies plus classiques, je dirais, il y a des choses qui vous inspirent pour écrire maintenant ? Est-ce que ça reste des choses qu'on a en mémoire pendant longtemps?
Moi, j'aime bien les sirènes, mais celles d'avant, donc celles qui ont des ailes.
Andersen, quoi.
Oui, les sirènes ailées, femmes oiseaux, plutôt que les sirènes poissons. Celles qui font peur aux marins et qui chantent très fort.
Moi, tout cet imaginaire est finalement à l'origine de ce que j'écris, puisque l'idée, c'est que tout cela a existé. Donc, je m'intéresse à pratiquement tous ces éléments mythologiques, toutes ces créatures anciennes, de la gorgone aux sirènes, en passant par les centaures, les minotaures, etc. Ils ont une place quelque part dans cette histoire réel que je décris dans le bâtard de Kosigan.
Mais par contre, je ne veux rencontrer Cerbère que dans de bons présages.
Et est-ce que justement, comme Fabien vient de le dire, chez lui, les créatures sont... On s'interroge sur la réalité de leur existence a posteriori. C'est un peu ça. Est-ce que chez vous, Patrick, on peut aussi s'interroger, je repense aux héritiers de l'aube, sur l'existence des créatures dissimulées parmi nous et gérées par Hermès Trismégiste?
Oui, chez moi, on n'a même plus besoin de s'interroger, puisque c'est un fait, elles sont là, de toute manière, quoi. Elles sont j'aime à penser que nous côtoyons tout un monde invisible.
Fait des créatures dans la salle.
Mais certainement. J'en avais invité deux ou trois. Donc je pense qu'elles sont à côté du monsieur, je crois. Il y en a une là-bas au fond. Moi, j'ai la faculté de les voir, évidemment. Mais... Et voilà, j'aime vraiment cette idée selon laquelle nous côtoyons donc un monde invisible. Fait de créatures qui peuvent souvent nous réduire en morceaux. Oui.
Estelle, est-ce qu'on doit leur laisser le pouvoir aux créatures? Si on se réfère à celle de vos livres, oui, on peut espérer que ça se passerait pas forcément plus mal qu'avec les humains au pouvoir.
Ah, je peux pas trop répondre à la question sous peine de spoiler le troisième et dernier tome.
Je ne le savais pas, donc ça fait.
J'ai envie de dire. Peu importe les créatures, est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles sont pas là, l'important c'est de réussir à maintenir un certain équilibre. Très, très vague hein, comme idée, mais elle est là. Je trouve pas mes mots. Au secours.
C'est s'équilibrer avec sa propre altérité qui vous semble intéressant. C'est, quand vous parlez d'équilibre, c'est par trouver l'équilibre en soi.
Par rapport à notre univers entier, en fait. Mm-hmm. C'est trouver le point où on est bien entre nous, où on est bien avec la nature et où on peut enfin vivre en harmonie. Maintenant, si on compte sur l'homme pour ça, ça va peut-être être un peu difficile, je sais pas. Bah, peut-être quand on sera quasiment éradiqué, là, il y en a peut-être qui vont se poser des questions et décider de réagir. Je pense aussi.
Moi, je crois que toutes ces créatures, toutes ces mythologies existent. Puisqu'on les a imaginées, puisqu'on y a cru, puisqu'elles font partie de notre imaginaire, de nos rêves, de nos inspirations, de ce qui nous fait créer aussi.
Vous êtes de l'école de le pouvoir de l'esprit et de la pensée sur la matière, et donc nos croyances créent.
Je suis plus campbellienne que ça, donc Joseph Campbell est le héros aux mille et un visages, mais oui, moi j'aimerais bien que tout ça existe. Donc, mais bon, je suis capable de voir des faits parfois. Donc,
vous devriez faire un duo. Sarah voit les faits, Patrick voit les créatures maléfiques.
Pas seulement les faits, des créatures maléfiques aussi.
Aussi. Bon, bah, alors... Ne sortez pas sans Sarah et Patrick.
Dans mon cas, je ne suis pas sûr que nous, êtres humains, si nous sommes tous des êtres humains, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément le cas dans cette salle, je ne suis pas certain, dans le cas de mes livres, que les êtres humains apprécieraient que finalement les créatures anciennes retrouvent leur puissance d'antan et règnent à nouveau sur le monde, parce qu'effectivement, elles respectent la nature. En revanche, ce qu'elles respectent beaucoup moins, c'est la vie, et particulièrement la vie humaine. Donc, parce que comme tout leur système de fonctionnement tourne autour de sacrifices et de destruction, pour elles, c'est vraiment la base, et c'est respecter finalement l'univers, livrer des âmes à l'univers pour qu'il fonctionne mieux, ou des choses comme ça. Mais donc, pour nous humains, c'est justement le problème de la confrontation entre humains et la plupart des races anciennes, c'est que les êtres humains, eux, ce genre de choses... Ils le font parfois, mais ils n'en font pas une morale, ils ne mettent pas ça en avant comme le pinacle de la réussite et de l'harmonie universelle. Et donc, je ne pense pas dans mon cas que ce serait souhaitable forcément que les créatures...
L'humain est-il le pinacle de la paix et de l'harmonie universelle ?
C'est-à-dire que ça dépend.
mais c'est intéressant ce que vous dites sur la différence entre le respect de la nature et le respect de la vie. Parce que c'est une confusion qu'on a tous un peu tendance à faire. Si on respectait mieux la nature et la vie, tout se passerait mieux, serait plus harmonieux, les animaux vivraient longtemps et heureux, tout ça. Mais là, vous nous ouvrez une autre perspective. On peut être amoureux de la nature et pas amoureux de la vie.
Voilà. Et je parle évidemment là de la vie d'être pensant et de la vie d'être ayant une intelligence et pensant, pas de la vie de la nature justement, parce qu'évidemment dans la nature il y a aussi la vie, mais je fais une différence entre les deux.
D'accord.
Et oui, mais c'est tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Dans la perspective des créatures que nous évoquons, oui, c'est sûr que la vie humaine, il n'y a aucun souci pour l'éradiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes faux-morés qui attendent qu'une occasion, c'est se débarrasser de l'humanité. Quoi. Ceci dit, oui, je voulais aussi revenir très brièvement sur ce que je disais tout à l'heure, le monde invisible, donc dont beaucoup de représentants seraient en mesure de nous mettre en pièce, il peut également être très effrayé par nous-mêmes, quoi. Il peut considérer aussi l'humanité comme monstrueuse, par exemple en constatant ce que nous-mêmes pouvons détruire toute vie sur la planète avec notre arsenal nucléaire, nos armes de destruction massive. Voilà, ça peut être aussi finalement les créatures, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le miroir de nous-mêmes. Elles nous renvoient à nous-mêmes, quoi. À nos propres monstruosités, quand elles s'avèrent monstrueuses.
Donc il y a de la créature beau, en nous.
C'était beau, hein. Je sentais bien que la conclusion allait venir. Je me suis dit, allez, Patrice, c'est le moment de sortir quelque chose qui fait. Ouais, voilà. Qui fait le mec qui a réfléchi.
J'espère que vous avez live tweeté. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Est-ce que vous avez envie de poser une question sur les créatures et sur le. Je vous ai présenté un panel de créatures. Faites votre choix. Vous avez droit de la violence, de la séduction. Parfois les deux. Non, pas de questions ? Bon, alors je continue. Et on va quand même en arriver à la conclusion. Est-ce que vous leur dédiez un avenir meilleur que le nôtre ? C'est-à-dire que est-ce que les créatures s'en sortiraient mieux ? On a déjà tourné un peu autour du sujet, mais Est-ce que vous, vous avez envie qu'elle s'en sorte mieux sans nous ?
Envie, je sais pas. Parce que quand même, je reste un petit peu bisounours aussi. Mais quelque part,
ça se tient. Non, pas Estelle.
Si, justement, c'est dur de dire qu'elle s'en sortirait mieux sans nous, parce que bon, ça voudrait dire aussi que nous, on n'est plus là, et puis bon, j'ai envie de vivre encore un petit peu.
Mais
tout serait tellement plus simple sans nous, en fait, si on regarde bien.
Ah, mais sans les êtres pensants dont a parlé Fabien, vous êtes sûr ?
On parle des êtres humains.
Les êtres humains, oui.
Pas des dauphins, pas...
Je ne sais pas si Fabien pense que les dauphins sont des êtres pensants. Ah, bon, d'accord. Ok, j'avais pas compris ça.
Mais il n'y a pas beaucoup de dauphins qui torturent des bébés dauphins ou des trucs. Hein
si, les dauphins sont...
Mais chez les hommes,
c'est des obsédés sexuels et des violents. Donc, les dauphins sont des violeurs, des obsédés sexuels et très violents, y compris avec leur progéniture. Mais bon, c'est un autre débat.
Les singes, qui sont aussi des êtres sentients, peuvent être très très violents eux-mêmes.
Mais est-ce que finalement, la nature n'est pas violente en soi, point ?
Si, évidemment.
Et puis rappelons que nous sommes des créatures, vraiment, en réalité. Voilà. Nous sommes des créatures.
Sommes-nous des créatures ? Avons-nous été créés ?
Ah, on n'a pas abordé ce sujet. Merci, Sarah.
Ouais.
Restez, cette fois, on va parler. Ah,
moi, je le sais, mais je ne peux pas te le dire.
Ou il faudrait qu'il te supprime. Bon, eh ben, maintenant que nous savons que nous sommes tous des créatures, Fabien va conclure.
Je voulais juste dire, pour répondre à ta question, que dans mon univers, finalement, les créatures ont décidé de se passer de nous, finalement, parce qu'elles ont trouvé leur propre voie. Donc, je ne peux pas réveiller les détails pour ceux qui n'ont pas lu ce qu'il fallait lire, mais voilà.
C'est toujours un peu le moment de frustration quand on arrive avec des auteurs comme ça qui ont pas mal de tomes derrière eux et pas mal de tomes devant eux.
Et de secrets.
et ben donc, je vous laisse maître de choisir si vous avez besoin de les violenter ou de les séduire pour savoir la suite. Et je vous dis merci de cette table ronde. Merci à vous quatre.
Merci
à toi.
Merci.